Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, vous écoutez l'Afterfoot intégrale Coupe du Monde sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde 2022. Il est 23h02 à Paris, 1h02 du matin ici à Doha, au Qatar, en direct du studio RMC. Oui.
C'est bon, je peux parler du Maroc aussi ou c'est pas possible ce soir?
Non, c'est trop tard, mon cher Kevin. Il fallait t'imposer. Il fallait juste t'imposer, c'est tout. Ah bah, mais je t'assure qu'on va en reparler du Maroc. Hein. T'inquiète pas, on va en reparler. Tu t'imposes comme sur le terrain, Kevin. Hein.
Non, mais là,
comme tu l'as fait au Pays-Bas pendant 6-7 saisons.
Tu sais, un bon joueur, quand il voit qu'il y a trop de densité devant, il faut que ce soit lui qui couvre. C'est comme ça. C'est ça.
Ouais, sauf que le match a filé et t'as pas pu en placer une et faire une passe.
C'est pas grave, on a gagné. Qu'est-ce que je te dis? C'est le plus important.
Allez, messieurs, l'équipe de France, je tiens quelques infos avant qu'on écoute Daniel sur l'équipe de France qui va nous développer un avis intitulé ainsi. La passion ne doit jamais vaincre la raison. Explication dans quelques secondes. D'abord, Mbappé, absent de l'entraînement collectif aujourd'hui, on nous dit auprès du staff technique, protocole classique à J+2. Rien compris à cette formule.
J+2
après un match ne s'entraîne pas. Voilà. Donc, on n'en sait pas plus. Il est resté en salle de récupération. Loin des regards, rien de grave selon nos informations. Voilà, messieurs. Si vous voulez réagir. Hein.
C'est pas une fatigue musculaire comme Karim Benzema au Real.
J'ai pas la réponse, cher Kevin. Zéro transparence sur le sujet. Oh, on a bossé. On a dit
peur.
Que tout va
la
bien.
La France
pour
a peur.
Non, la France a pas peur. A priori, ça va. Côté anglais, présence incertaine de Raheem Sterling. Vous l'avez suivi pour samedi. Il est rentré chez lui à Londres après un cambriolage de son domicile. Il veut s'assurer encore pour le moment que sa famille est bien en sécurité avant d'éventuellement revenir samedi pour affronter l'équipe de France. On n'est pas inquiet non plus pour les Anglais qui ont de quoi faire malgré l'absence de Raheem Sterling. Avis Daniel Riolo, la passion ne doit jamais vaincre la raison. Jingle Daniel.
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça, et puis nous, si on avait fait ça, et bien, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, eh ben, il aurait glissé son pied dessus.
Morgan, je sais pas qui tu imitais. Tu imitais, je sais pas.
Non, j'imitais pas.
Imitation générique, en fait.
C'était dans ma galerie de personnages.
T'aurais pu doubler des films Pixar, peut-être.
Ouais, peut-être.
Une voix, hein, peut-être. Des dessins animés.
On t'a jamais proposé de faire un personnage?
Non, tu vois, c'est.
Mais pourquoi tu veux, il est pas comédien non plus?
Non, c'est vrai, je suis capable de faire la comédie. C'est comme quand j'ai fait Verratti avec le carton aussi.
Il y a plein de gens qui sont pas comédiens qui doublent des Disney.
Ressortez-nous Verratti avec le carton, s'il vous plaît, on le sortira d'ici quelques secondes. Daniel, pourquoi la passion ne doit jamais vaincre la raison?
Écoute, tu dois forcément connaître ton ami, le chanteur communiste Jean Ferrat.
Il n'est pas que communiste, un excellent chanteur et parolier aussi.
Il était totalement communiste, bien sûr, stalinisme de la première à la dernière heure.
Il n'est pas que ça.
Mais
incroyable ça quand même.
J'ai pas dit qu'il était que ça. J'ai dit
c'était un bon chanteur aussi.
J'ai dit c'était un bon chanteur avec une belle chanson.
À quoi ça te sert de rajouter ça en réalité? Rien.
Et notamment cette chanson que je voulais mettre en avant, Aimer à perdre la raison. Tu t'en souviens de cette chanson? Tu devrais même la chanter, tu devrais enchaîner la direct.
Oui, bien sûr, évidemment. On se quittera la suite.
Attention, parce que Daniel, c'est un chanteur. Il m'a envoyé quelques vocales depuis le Qatar.
Oui, alors on va se quitter avec Daniel comédien. Daniel chanteur, on va arrêter, quoi.
Hein? Non, franchement, je chante comme une casserole, laisse tomber. Oui, donc, ton ami chanteur communiste Jean Ferrat aimait à perdre la raison. Juste avant, tu sais, ces fameuses consultations qu'on fait auprès des supporters, bien, il y en a eu des comme ça avant la Coupe du Monde, et notamment une. Juste après le match contre l'Australie, où pourtant les Bleus avaient livré une belle prestation et avaient une belle correction infligée à l'Australie, 12% seulement des Français pensaient à ce moment-là que les Bleus pouvaient gagner la Coupe du Monde. Puis tu sais, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie ensemble des Français et ceux qui aiment le foot. Et dans ceux qui aiment le foot, on montait à 17. Petit pas en arrière, je me souviens de discussions autour de la mythique table de l'after, où ça flippait quand même pas mal avant la compétition, il y a trop de blessés, les Bleus vont pas y arriver, ça sent la fin de cycle, Gilbert délirait sur le but de Kazri à la dernière minute pour la Tunisie, il avait raison, Kazri a permis à la Tunisie de battre la France, mais ça n'a pas permis l'élimination de la France en tout cas, comme le redoutaient certains. Et puis là, on arrive au moment des quarts de finale et tout bascule. On est dans une quasi-certitude, en tout cas, alors peut-être que je vis dans un monde parallèle ou je ne sais pas, mais tous les gens que je croise partout, la France, elle a gagné la Coupe du Monde. La traditionnelle, puisqu'on parlait des clichés culturels tout à l'heure, la traditionnelle arrogance française a repris le dessus. Avec Mbappé, on va gagner la Coupe du Monde. C'est fait, c'est entendu, c'est... Moi, je me méfie toujours, moi, de ces basculements d'émotions. Parce que
mais comme ça, c'est chez le grand public ou chez les passionnés
de foot? C'est un petit peu tout le monde maintenant. Là, ça y est, maintenant, même, c'est l'autoroute.
Même ceux qui connaissent le Brésil, l'Argentine, l'Angleterre, le Portugal, mais on l'a gagné déjà.
Bah, écoute, je sais pas, tu demandes à Nico, je suis sûr qu'il va te dire, je vois pas qui va nous arrêter.
Alors c'est vrai que nous on est habitué toute l'année,
je le dis toujours, vraiment toujours, je répète cette phrase très souvent, il y a une grande différence entre les matchs qu'on regarde toute l'année, l'analyse qu'on veut mettre dedans, le feuilleton championnat ou le feuilleton Ligue des Champions avec les tactiques, les joueurs qui quotidiennement sont ensemble à jouer des matchs de façon hebdomadaire et la compétition internationale où l'émotion submerge tout. On l'a vu avec le Maroc, on en a parlé. Je me souviens évidemment du Portugal en 2016 et des polémiques innombrables parce qu'on pouvait pas dire que ça jouait pas bien. Parce qu'effectivement, ou même France 2018, qu'est-ce que c'était pas de dire que c'était chiant à regarder les Bleus. Parce qu'effectivement, tant que tu gagnes, c'est une espèce d'extase populaire générale qui fait que t'es tellement excité qu'à la limite, tu t'en fous. Et je dois bien dire que, bah oui, c'est vrai, après tout, on s'en fout, on est content. Et là, effectivement, l'émotion, je sens qu'elle est en train de gagner et qu'on n'analyse plus du tout et on n'a plus peur. Et je voulais juste dire, dans cet avis très simple, vraiment, qu'on reste quand même un petit peu les pieds sur terre parce qu'on n'a pas joué grand monde jusque-là. Certes, on a Mbappé qui fout les jetons à tout le monde, mais arrive l'Angleterre, qui est quand même une sacrée équipe. J'ai dit hier soir que Mbappé avait un edge sur tous ses adversaires parce qu'il faisait peur.
Sauf sur Kyle Walker.
Ben, je ne sais pas, justement. Ça, je ne le sais pas. Si toi, tu le sais.
On l'a vu quand même. City, le PSG, c'est. Alors, je pense qu'Mbappé peut bien sûr lui mettre la misère aussi, mais c'est un des joueurs qui arrive le mieux à le tenir.
L'edge est-il véritable ou exagéré? On le verra. On le verra samedi. Je pense la seule chose qui est vraie, c'est effectivement que les Français font peur. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'en méfient et c'est normal. Il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe et je pense que ça passe principalement par Mbappé. Et puis le fait qu'il soit champion du monde et qu'il l'ait été sans qu'on les attende vraiment et en jouant d'une façon qui est d'ailleurs bien différente de celle d'aujourd'hui. Il y a juste ça. Ça, c'est vrai que c'est un petit avantage qu'on a. C'est cette espèce de doute, de trouille qu'on met un peu à tout le monde. Mais pour le reste, je pense qu'il faut vraiment rester calme parce qu'encore une fois, même contre la Pologne, c'est Mbappé qui allume la lumière, mais il y a eu un gros passage à vide dont on a très peu parlé, je trouve. Mais il y a eu pendant une demi-heure des Français.
L'occasion avant la mi-temps.
Pas bon. Avec en point, en exergue l'occasion des Polonais, là. Alors, c'est toujours facile de dire qu'est-ce qui se passe s'ils marquent. Mais néanmoins, c'est une réalité. Ça peut être 1-0 pour la Pologne à ce moment-là. Donc, voilà. Pied sur terre, comme on dit, Nico Jamin.
Daniel, excuse-moi, t'as une petite tendance quand même à inventer des gens qu'on n'entend pas. Qui a dit ça? Que ce soit au 32-16, sur la MC ou ailleurs, on va gagner la Coupe du Monde. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a excuse-moi, laisse-moi finir, que l'espoir n'est plus le même. On est passé du désespoir avant le mondial à un début d'espoir désormais, avant ce quart de finale. Là, franchement, les gars, vous allez un petit peu loin quand même. On n'est pas en train de délirer. L'équipe de France va être championne du monde.
Allume tes réseaux sociaux, tu vas avoir très vite, hein. Ça va aller très très vite. Non mais après moi je pense pas par contre que c'est chez les vrais fans de foot qui suivent le foot vraiment
Non mais Daniel, laisse parler Kevin. Mais c'est tellement mal poli.
Laisse parler. Eh oui. Cette belle chanson de ton chanteur préféré, Nico.
C'est franchement abominable parce qu'en fait, il y a mieux que ça que tendre un téléphone portable sur un micro. Il faut demander en régie à notre réalisateur de sortir le son.
Déjà,
20 ans de radio pour faire ça, Daniel. Pour saccager l'antenne.
Laisse-moi finir, Nico. Laisse-moi finir. Non, je disais que oui, en effet, il y a peut-être une petite enflammade, mais j'espère que c'est. Décidément.
Kevin, vas-y, il a raison, tu peux continuer
et
là-dessus.
Donc décidément, je pense que c'est, j'espère en tout cas que c'est plus sur les gens qui suivent le foot occasionnellement ou un peu de loin, mais j'espère quand même que ceux qui suivent les matchs de très haut niveau savent qu'aujourd'hui, dans ces quarts de finale, surtout au vu du niveau du plateau, franchement, celui qui pense que l'équipe de France de grandes chances où est vraiment favori ou va gagner la Coupe du Monde, honnêtement il connaît rien au foot, c'est pas possible de dire que tu espères et que l'équipe de France a toutes ses chances, pourquoi pas, mais quand tu vois le Brésil, quand tu vois ce qui se passe autour de l'Argentine et de Messi de sa dernière Coupe du Monde, quand t'as vu le Portugal ce soir, quand t'as vu ne serait-ce que des équipes comme l'Angleterre que tu vas rencontrer ne serait-ce que dans quelques jours, je pense quand même que c'est très difficile d'être sûr et certain, que voire impossible d'être sûr et certain que l'équipe de France ou quelque équipe que ce soit va gagner cette Coupe du Monde, à part le Brésil, parce que le Brésil joue quand même contre la Croatie, qui est l'équipe qui, sur le papier en tout cas, a le moins de qualité ou a les joueurs les plus vieillissants. Mais sinon, je vois pas d'équipes qui seront vraiment largement devant.
Nico Jamin, une seule question se pose. Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un « n'avoir que toi comme horizon »
Oui, je crois que j'ai dit il y a 24 heures, je crois. C'est dingue quand même, Daniel, de constater le nombre de chanteurs communistes à succès en France, de Renaud à Jean Ferrat, à Bernard Lavilliers,
Renaud
à Georges Brassens, Georges Brassens, ce grand libertaire, anarchiste.
Quand même, hein.
Comment ?
Renaud a terminé en soutenant François Fillon.
Mais la grande époque de Renault,
ça t'a échappé, ça. Ça t'a échappé, ça. Ça t'a échappé.
Comme Doug Gynéco, ton ami.
Son mouvement de l'extrême gauche à la droite classique.
Et non, on peut finir l'after ou on reste sur Jean-Pierre?
Il y a des choses qui échappent à Nico.
Faut pas nous réunir avec Daniel, les gars. Tu parlais à l'instant, Kevin, du duel à venir, Mbappé-Kai Walker. Je précise que Kai Walker, d'ailleurs, on va me dire que je suis un peu niais et mièvre. Il veut adopter un chat. Il a rencontré un chat ici, puisqu'on parlait d'horizon.
Mais il y a beaucoup de chats,
oui, il y a beaucoup de chats qui
traînent.
Nourris par les habitants de Doha, tu vois.
Mais tu sais que Jérôme Thomas également voulait en prendre un. Une fois, on était dans un parc ensemble. Il y en avait plein qui venaient autour de nous et il a dit, mais c'est fou, tous les chats.
Ils sont sympas, les chats.
Ouais, très sympas. Un peu relou au bout d'un moment quand t'es là.
Certains sont un peu agressifs.
Je sais pas quoi ils tarnaient autour de nous, mais bon, voilà.
C'est comme les rats à Paris.
Non, ne parle pas d'animaux.
Les rats sont des animaux comme les autres.
Par pitié.
Stop! Arrête de politiser, s'il te plaît.
J'ai pas parlé de
ça. T'as rien dit.
Oui, bien sûr, je te vois venir. Kevin, le duel Kai Walker-Kylian Mbappé. Tu voulais en parler absolument parce que pour toi, ce sera une donnée déterminante de ce match.
Ah, pour moi, ce sera vraiment la donnée déterminante, sachant que Kylian Mbappé est tout simplement inarrêtable depuis le début de cette Coupe du Monde. Exceptionnel, fantastique, génial. Et c'est vrai que Kai Walker, c'est le seul joueur qui a réussi à tenir Kylian Mbappé dans des gros matchs avec Manchester City, parce que il faut savoir que Kyle Walker, c'est, je crois, un des trois joueurs les plus rapides de Premier League. C'est un joueur qui est très puissant, qui arrive à mettre son corps, qui arrive vraiment à tenir Kylian Mbappé sur la vitesse, sur la durée. Donc je pense vraiment que ce sera the duel pour ce match, parce que si l'Angleterre veut éliminer la France, il faudra bien sûr arriver à tenir un minimum Kylian Mbappé.
Daniel ?
Rien à
intenable, Mbappé. Je rappelle que les Polonais avaient mis un système en place avec deux personnes sur lui en permanence, un troisième qui récupérait derrière. Est-ce que Mbappé est absolument intenable, injouable? Est-ce qu'il y a une façon?
Après, moi j'ai du mal avec l'idée que alors il y a des joueurs dans l'histoire qui effectivement peuvent être au-dessus et qu'on détache d'un collectif. Moi j'ai toujours préféré. Préférer le football collectif, oui, même si je suis sans arrêt en train de parler de Maradona qui faisait gagner une équipe à lui tout seul. Mais je crois pas qu'on y arrive sans un, parce qu'en fait, il faut, même quand on dit Maradona il gagnait tout seul, en fait, c'était 10 plus 1. Ok, mais le reste était super bien organisé pour que lui s'exprime de cette façon. Est-ce que l'équipe de France, elle est construite exactement de cette façon? J'en suis pas convaincu. D'abord parce qu'elle est forte partout. Il y a des très bons joueurs à tous les postes et il y a un mec qui peut faire la différence. Est-ce que ça va se résumer à Mbappé ou Walker? Je crois pas, parce que les Anglais ont également de très bons joueurs. Leur ligne offensive, elle est forte. Il faudra les surveiller aussi. Au milieu de terrain, ils sont très forts aussi. Oui, mais le duel que Mbappé va imposer à Walker, pendant qu'on va se poser la question de savoir si Walker peut résister à Mbappé et tout, il faudra aussi que Koundé surveille James Foden. Il faudra aussi que Saka oblige Hernandez. Phil, comment je l'ai appelé?
James
Foden.
Pour les Anglais, ça va.
Phil Foden, oui, pardon. Et je crois qu'hier, je l'ai appelé également comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bref, que Saka oblige Hernandez à défendre ce qu'il a peu fait jusque-là.
Ouais.
Donc, ils vont se retrouver, les Bleus, dans une configuration qu'ils n'ont pas encore connue depuis le début de la compétition. Ils ont un match.
Après.
Depuis combien de temps ils n'ont pas eu un match comme ça?
Très longtemps.
C'est ça.
Une vraie question.
En phase de groupe, face à l'Allemagne l'an dernier, enfin, il y a un an et demi. Mais c'était une phase de groupe.
À la Ligue des Nations, groupe, le match qui gagne avec le but de bah c'est contre l'Espagne.
Ouais.
Le but de Benzema et tout. Donc, est-ce que c'est par le biais d'un exploit que tu vas gagner? Parce que collectivement, supérieur à une équipe de ce niveau-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu.
C'est vrai.
Il y avait eu ce match au Portugal aussi.
Oui, mais là, les gars, on parle de Coupe du Monde, Kevin.
Oh, oui, dans le contexte. 2021, non?
Non, c'était avant. C'était avant.
2020?
Peut-être même 2019.
Oh non, pas 2019 quand même.
Ah si, je crois.
Le temps passe tellement vite, ma bonne
et
dame.
Oui. Et oui.
Un mot, les gars, sur la conférence de presse d'Olivier Giroud aussi, hein, qui a déclaré aujourd'hui qu'il était soulagé désormais d'avoir battu le record, le Thierry Henry, ou tout du moins de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Moi, j'aime bien. Il en parle spontanément. Certains diraient de manière très neutre. Oui, je suis content, c'est un honneur, mais c'était pas mon objectif. Lui parle d'émotion, de sentiment, un soulagement qui va lui permettre de se libérer peut-être encore un petit peu plus.
Oui. Ce qui est drôle avec ce record, c'est que bon, on va pas lui dire, hein. C'est magnifique ce qu'il fait, c'est historique, c'est exceptionnel, tout ce qu'on veut. Mais
2020, Kevin.
Mais ouais, 2020. Bah,
c'est
okay.
Ce que j'avais dit.
Mais qu'il a Mbappé, il va mettre combien de temps à battre le record d'Olivier Giroud? Pas très longtemps, je crois. Donc c'est pas comme si c'était un record.
D'ailleurs, Giroud l'a dit également aujourd'hui en conférence de presse. Il est pas naïf, hein. Il le sait.
Ouais, moi, ces histoires de records, franchement, aujourd'hui, le foot, qu'est-ce que c'est analysé par le biais des records?
Alors, mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que les joueurs eux-mêmes en parlent volontiers.
Ça fait bien, t'apprends les records. Mais il y a un seul record qui tient en équipe de France, en fait. Le seul qui tient, c'est 41 buts, 72 sélections. Le reste, vous le faites comme vous voulez, mais c'est ça compte pas à côté.
Pour un numéro 10 encore.
Michel Platini.
41 buts, 72 sélections. Je suis
pour
désolé.
Un 10.
On fera jamais mieux que ça. C'est-à-dire dans une époque où il n'y avait pas autant de matchs.
Mais
vous rendez compte que des mecs comme Manu Amoros qui est souvent là, les Giresse, les Platini, ils ont pas dépassé 80 sélections, ces gars-là, quoi.
Parce qu'à l'époque, Juste Fontaine, matchs, 21 matchs, 30 buts.
Aujourd'hui,
Juste Fontaine, 21 matchs,
120 sélections.
C'est pour ça que je suis d'accord avec Daniel, pour le coup, les sélections.
41 buts, 72 sélections, c'est
records,
le record.
Les records de buts à partir du moment où tu as fait.
Après, je kiffe, Giroud, je félicite pour ça, mais bon, voilà.
Non, mais c'est vrai que les records, ça veut rien dire à partir du moment où tu n'as pas un nombre de matchs, un minimum comparable.
Ouais.
Donc, bon, après, ça reste des chiffres sur un livre.
Allez, on revient dans un instant, messieurs, dans la suite de l'After Intégrale Coupe du Monde. L'avis de Kevin sur l'objectif demi-finale pour les Bleus. Une place en demi, même s'il y a élimination au bout, serait déjà un mondial réussi pour l'équipe de France. On va revenir aussi sur l'énième interview de Noël Le Graët aujourd'hui accordée à nos confrères du Figaro. Quelques déclarations encore une fois.
C'est les derniers tours de piste, hein, tu sais, c'est comme ça, c'est les compagnons de la chanson.
Sait-on jamais, Daniel, on verra.
Non, c'est
reste avec nous. Dans l'After Intégrale Coupe du Monde sur RMC, 23h19 à Paris, 1h19 du matin ici à Doha avec Daniel Riello et Kevin Diaz. Vous pouvez nous appeler au 32-16. À tout de suite.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riello, avec Kevin Diaz, l'intégrale, l'after intégrale Coupe du Monde sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde 2022. Il est 23h22 à Paris, 1h22 du matin ici à Doha au Qatar en direct du studio RMC. On est là jusqu'au bout, bien sûr, tous les matchs commentés sur la radio officielle de ce mondial. Dans un instant, on va parler aussi de Samuel Eto'o, les gars, le coup de savate qu'il a mis à un blogueur algérien. Beaucoup de réactions en Algérie, au Cameroun, ici aussi à Doha. Ça fait énormément parler. A-t-il dépassé les limites? Votre avis dans un instant, Daniel et Kevin. Dans un instant également, on parlera de Lyon avec Edouard G. La vente, c'est pour demain, oui ou non? Ultimatum fixé par Jean-Michel Aulas. Logiquement, demain, John Textor doit faire valider le rachat du club. On en parlera avec Edouard G en toute fin d'after. Encore un peu d'équipe de France, les gars. Tiens, juste un mot sur le tableau, les gars. Les équipes attendues sont là, à part l'Allemagne, l'Espagne finalement. On est dans une forme de logique. Votre regard un peu sur ces affiches des quarts de finale, bien sûr.
La surprise, c'est quand même l'Espagne éliminée.
C'est comme si
l'Allemagne.
Non, mais le tableau, bah, l'Allemagne est tombée au premier tour, mais je veux dire, par rapport au huitième, le plateau dont on parlait sur les derniers jours, où effectivement, semblait se dessiner le Pays-Bas, Argentine, le Brésil, Croatie, le France, Angleterre et l'Espagne, oui, Portugal.
La seule incongruité, c'est le Maroc.
Exactement, le Maroc a pris la place et a créé la seule surprise de ces huitièmes de finale. Pour le reste, effectivement, on est avec majorité de joueurs qui sont des habitués de la Ligue des Champions, des joueurs qu'on connaît. Il n'y a qu'au Maroc où tu as des joueurs d'Angers ou des joueurs, tu vois, qui sont a priori de seconde catégorie, même s'il y en a de Ligue des Champions, Hakimi, Ziyech. C'est pour ça que je dis que cette équipe, attention, elle a des beaux joueurs de foot, hein, quand même. Ah, elle a des beaux joueurs de foot. Mais c'est, on va dire que l'Espagne était favorite. Ouais. Voilà, donc c'est un peu la seule surprise. Pour le reste, on a du lourd, hein.
Ça va nous faire quand même de très très beaux quarts de finale.
Bien sûr.
Ah là, tu vas pas en rater, hein, pas
le,
une minute.
Le week-end là, le week-end,
on est off.
Le week-end, c'est vendredi, samedi.
C'est ça.
Ouais.
C'est un peu comme au tennis, ça va devenir très intéressant maintenant au stade des quarts de finale.
Ah ben.
Dans un tournoi du Grand Chelem.
Il paraît que c'est maintenant que le monde commence.
Ouais. Noël Le Graët a parlé, la sienne a déjà commencé depuis un moment. Il est partout, vous savez qu'il loge également, il a la chance de ne pas de loger dans un hôtel FIFA en tant que proche de Gianni Infantino.
Ah, il est pas avec vous.
Non, il est pas au camp de base. On va peut-être croiser au 14e. Alors Noël Le Graët, interview au Figaro,
le fameux 14e,
a répété ce qu'il a dit chez Jérôme Roten dans Roten sans flamme en novembre dernier, ouais, juste avant le mondial. Il dit: mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux? C'est le président qui parle, pas l'ami. Deschamps aura la main s'il atteint les demi-finales en battant samedi l'Angleterre. Mon souhait, c'est qu'il reste. Qui voulez-vous trouver de mieux? Voilà, il le dit,
Zidane,
évidemment, qu'il n'a jamais appelé Zidane de sa vie pour le poste de sélectionneur. Justement, ça inspire aussi un avis à Kevin Diaz, qui estime que si Deschamps est en demi, son mondial sera réussi. Jingle Kevin Diaz.
C'est pas aimer à tel point que tu peux pas aimer quelqu'un d'autre.
Kevin, nous t'écoutons.
Ouais, alors attention, parce que moi je vais commencer par mon avis, par dire que considérer que l'équipe de France et Didier Deschamps réussissent leur mondial en allant en demi-finale, ça ne veut pas du tout dire que si j'étais à la place de Noël Le Graët, je prolongerais Didier Deschamps. Ceci étant dit, je pense quand même que au vu des blessés, au vu des absences et au vu du jeu qui a été proposé par l'équipe de France, et du fait que Didier Deschamps ait trouvé une formule qui semble correspondre, ou qui correspond clairement même au vu des forces en présence, je pense que pour l'instant Didier Deschamps réussit sa Coupe du Monde. Il y a quand même débat sur le poste de latéral droit, sur la liste, etc. Mais force est de constater qu'ils sont en quart de finale, comme les plus grosses nations. Et le juge de paix, ce sera sur 90 minutes, savoir s'ils vont réussir à se défaire de l'Angleterre, qui est un autre favori dans cette compétition, qui est le dernier finaliste de l'Euro, qui est dernier demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une équipe qui va être vraiment un costaud à affronter pour l'équipe de France. Et si Didier Deschamps et son équipe réussissent à passer cette montagne, je pense qu'on pourra dire que l'équipe de France aura fait une Coupe du Monde très correcte, et que Didier Deschamps, je le répète, au vu des absences, au vu des blessures de dernière minute, aura quand même réussi une nouvelle fois. Et il faut lui rendre grâce pour ça, parce qu'on peut aimer ou pas son style de jeu, sa communication surtout, mais en tout cas en termes de management et en termes de créer un groupe pour aller loin dans une compétition, à part l'Euro, il aura quand même à chaque fois réussi des compétitions vraiment très satisfaisantes.
Marouane est avec nous, 32-16. Salut Marouane.
Salut l'équipe Pasteur, comment allez-vous? Ça va, les gars?
Bien, et toi? Supporter de l'équipe de France, bien sûr.
Exactement, supporter de l'équipe de France, grand supporter du PSG, donc j'ai voulu réagir un peu sur, bon, déjà pour parler du sujet de Deschamps, écoute, s'il passe en quart et qu'il passe les quarts, aller en demi, je dirais que c'est une Coupe du Monde réussie. Après, si on a la chance d'avoir Zizou, mais pour la magie du truc, pour recommencer un nouveau cycle, il n'y a pas à hésiter, ça c'est sûr que Zizou... Il doit être à la maison, quoi. Il doit tenir l'équipe, ça c'est sûr. Attends.
Non, mais c'est pour ça, Marouane, que moi je disais, attention, cet avis, c'est pour rendre hommage au travail actuel de Didier Deschamps sur cette compétition. Mais je pense que, comme toute équipe, comme toute sélection, l'équipe de France a aussi besoin de renouveau. Et quand t'as un entraîneur disponible comme Zinedine Zidane, peu importe que tu sois champion du monde, que t'ailles en demi ou en quart, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de tenter de faire une nouvelle aventure. Donc, moi, je comprends pas trop ce discours qui dit que si tu vas à tel niveau de compétition, alors tu seras prolongé ou pas.
Ça n'a rien
pour moi, ça n'a rien à voir.
Cycle,
au bout de 10 ans, voilà.
Vous savez que la seule question qui a à se poser, c'est est-ce que Noël Le Graët est encore l'homme qui décide et qui va décider dans un futur proche? La seule question, elle est là.
Je rappelle qu'en janvier, on aura le résultat de, voilà. De l'audition, de l'audit, pardon.
N'oublions pas quand même que
la fédération
numéro 1 de la ministre, c'est de le sortir. N'oublions pas que lui essaye de s'en sortir en se délestant de Florence Ardouin, puisque le COMEX a demandé sa tête. Enfin, certains membres du COMEX ont demandé la tête d'Ardouin. Le Graët n'a jamais voulu la faire tomber jusque-là, mais peut-être va-t-il s'y résoudre. Je ne suis pas sûr que, quoi qu'il en soit, ce soit suffisant pour sauver la sienne. La logique des choses voudrait quand même que derrière cette Coupe du Monde, alors c'est vrai qu'une victoire en Coupe du Monde a toujours un impact qui justement fait perdre la raison, mais s'il n'y a pas de victoire en Coupe du Monde, la logique veut quand même que le duo et les deux Bartwix dégagent, et que je pense, à mon sens, ce serait bon pour le football français. Il faut passer à autre chose. Il faut et que Noël Le Graët s'en aille, et que Didier Deschamps, qui a fait très bien pour les Bleus, s'en aille aussi, qu'on tourne une page, qu'on aille à autre chose. Nouveau président, nouveau directeur, parce qu'Ardouin, il faut qu'elle s'en aille également très vite. Grand ménage, grand coup de balai à la Fédé. Nouveau sélectionneur, Zidane, il faudrait que ce soit lui. Et voilà, il a attendu, il a tout refusé pour ça.
Exactement.
Avec le risque, quand même, il le savait que Deschamps veuille continuer, et que si on demande à Deschamps, lui, il s'accrochera au poste. Surtout, il ne le lâchera jamais à Zidane, le poste. Ça, c'est clair et net.
Ah bon?
Et l'équipe, si je peux me permettre aussi. Lui. Même pour Deschamps.
Pourquoi? Attends, excuse-moi, Marouane. Daniel, finis juste ce que tu viens de dire, quand même, parce qu'on le dit souvent dans l'after, on ne va jamais trop au bout de ça. Pourquoi il ne lâchera pas à Zidane?
Parce qu'il lâchera pas à lui, parce qu'il sait que Zidane est plus aimé que lui, et que Deschamps, il y a chez lui une blessure narcissique depuis toujours, d'être moins aimé que d'autres gens de 98. Et puis, parce que point et phrase, si tu me trouves quelqu'un de 98 qui défend Deschamps, sur les 23 qu'ils étaient à l'époque, si t'arrives à 5, c'est le bout du monde.
Oui, voilà, c'est ça.
Si t'arrives à 5, c'est le bout du monde.
Oui, voilà. Il y en a certains quand même.
Bon, bah c'est Marouane, beaucoup déjà. Ça veut dire certaines choses, ce genre de choses-là.
Excuse-moi, Daniel, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que Deschamps, vaut mieux qu'il parte par la plus belle des portes et il ne faut pas qu'il fasse la compétition.
Mais la porte, elle est déjà là, Marouane. Tu sais, la porte, déjà, elle est belle. La porte, elle est belle. Il a été champion du monde. La porte, il y a déjà des fleurs autour.
Complètement.
Bah oui.
Je pense que voilà, il faut remettre un peu de magie pour notre sélection. Et pour en revenir sur le sujet précédent, je pense qu'il va falloir qu'on souffle un bon coup. On avait l'une des poules les plus faibles de la Coupe du Monde. Là, on va se prendre l'Angleterre. Et pour être supporter du PSG et avoir vu la dernière confrontation Walker-Mbappé, va falloir qu'on souffle un bon coup, qu'on repose un peu la tête sur les épaules et qu'on arrête de bien monter sur nos grands chevaux aussi, parce que la compétition, on en a encore de belles devant nous. Il y a les Portos qui nous ont montré ce qu'ils nous ont montré.
Non, les Portugais, s'il te plaît.
Les Portugais, excuse-moi. Non, excuse-moi. Il y a les Argentins, pareil, avec la
magie. Ça te fait rire, ça. Hein, ça te fait rire, ça.
Oui, je rigole de tout.
Désolé, je me suis remporté. Et il y a aussi les Brésiliens avec la magie de la Seleção. Donc, faut souffler un bon coup. C'est vrai que pour l'instant, elle est belle, mais on a beaucoup d'obstacles devant nous encore.
Ça commence vraiment samedi à 20h.
Exactement.
Merci Marouane. Non, fait le 32-16. Excellente soirée à toi. À très vite dans l'after, les gars. Alors ça, Samuel Eto'o, Daniel et Kevin. Donc je rappelle les faits. Hier soir, après la victoire du Brésil contre la Corée du Sud, à laquelle il a assisté en tant qu'ambassadeur du mondial, il signe des autographes aux spectateurs qu'il croise. Il est interpellé par un blogueur ou un youtubeur algérien. On ne sait pas précisément ce qu'il lui dit. Il devrait être question du barrage Cameroun-Algérie, dont certains estiment que l'arbitre Gassama a été acheté par Eto'o ou la fédération camerounaise. Ça déclenche la colère de Samuel Eto'o qui lui assène un coup de pied violent au visage, a priori. Eto'o a publié aujourd'hui un communiqué ce soir. Il dit regretter d'avoir perdu son sang-froid. Il présente ses excuses au public pour cet incident regrettable, pas aux youtubeurs en revanche. Il demande également aux autorités algériennes et à la fédération sœur d'Algérie, comme il dit, de prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce climat délétère, redoutant qu'un drame plus grave ne se produise. Je rappelle que youtubeur lui est allé porter plainte à un poste de police ici à Doha au Qatar et que la FIFA aurait interdit désormais de s'approcher à ce blogueur des stades de la Coupe du Monde. Est-ce que ça vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a choqué? Est-ce que vous estimez, un peu comme moi quand même, que Samuel Eto'o, en tant que président d'une fédération nationale, en tant qu'ambassadeur de la FIFA, pète les plombs? On dirait quoi, ces gars? C'était Noël Le Graët ou un autre président de fédé qui a asséné un coup violent à un simple gamin qui veut effectivement attirer l'attention, Nico, cumuler les clics. Et
non, mais le problème, c'est pas... On n'est pas en train de parler d'un président qui est face à un blogueur, on est en train de parler d'un problème qui commence et qui a pris des proportions complètement démesurées depuis des mois et des mois maintenant. Là, pour le coup, on n'est vraiment plus du tout dans la raison depuis de nombreux mois. On n'est pas à faire une comparaison si c'était un tel ou un tel qui faisait ça. Là, on est à deux doigts de l'incident diplomatique permanent entre ces deux pays. Très franchement... Et on peut pas sortir du contexte ce qu'a fait Samuel Eto'o. Je veux dire, rappelle-toi ce qui s'est passé après ce match-là, la réaction démesurée de Jamel Belmadi, qui était venu d'ailleurs dans l'émission de Jérôme Rotten, s'excuser lui aussi d'être allé trop loin, ou limite il avait sous-entendu qu'il fallait choper l'arbitre et lui faire passer un sale quart d'heure. Je rappelle quand même qu'après un Algérie-Cameroun, en février 2022, il y a un quotidien algérien qui a quand même titré « Le Cameroun retourne dans la jungle sans pois chiche ni haricots ». Qui s'était permis de faire une blague un peu osée sur Albert Ebos, le attaquant camerounais qui était mort dans un match. C'est le fameux match US Kabylie, USM Alger, là, il a pris un truc sur la tête et tout. Bon, je crois que tout le monde est en train de perdre la tête dans cette histoire-là. Côté algérien, on a du mal, on est persuadé qu'il y a eu des choses louches dans ce match-là. Personne n'est capable de dire quoi que ce soit là-dessus. C'est que des supputations, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un match de foot. C'est pas la première fois qu'il y a que dans un match, on croit que l'équipe qui a perdu croit qu'il y a eu quelque chose de louche en face. Comme a dit Eto'o, il y a eu des recours. Rien n'a pu être démontré, rien n'a pu être prouvé. Et puis de toute façon, je vois pas ce qu'il y avait à prouver. Genre, on met beaucoup trop de choses dans ce match-là et dans ce qui s'est passé. Et là, Eto'o, il arrive au bout de la chaîne de ce truc-là avec ce mec-là qui le harcèle sans arrêt. Qui franchement est méga casse-couille, quoi.
Mais il le sait, Eto'o, Daniel. Il est habitué à ça.
C'est
20 ans qu'il vit avec ça.
Tu ne peux pas sortir un acte d'un contexte, même si le passage à l'acte violent, moi je le condamne, quoi qu'il en soit. Il y a toujours une différence entre la réaction, l'énervement que tu peux avoir et le passage à l'acte. Le passage à l'acte, le geste violent, c'est quelque chose de particulier. C'est pour ça que devant la justice, t'es toujours plus condamné en cas de passage à l'acte que simplement si t'insultes ou si t'es voilà. Donc là, évidemment, et d'ailleurs, lui-même s'est excusé. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut des deux côtés, et surtout du côté algérien parce qu'il n'arrive pas à le digérer, il faut sortir de ce truc-là. C'est pas possible. Comme dit Eto'o dans son communiqué, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mal tourner. C'est pas possible ce que je t'ai lu, Nico. Tu peux pas ne pas être outré par ce que j'ai lu de la presse algérienne. Le Cameroun retombe dans la jungle sans pois chiches ni haricots.
Oui, alors tous les Algériens, effectivement, et ce blogueur peut-être n'est pas responsable.
Mais non,
de cette une des médias algériens. J'ai passé des coups de fil à des confrères algériens qui nous disent effectivement.
Comment t'as fait pour acheter
en Algérie ça. On n'est pas dupes. Hein. On déplore une forme de populisme de Jamel Belmadi après l'élimination.
Bah oui.
En barrage aussi.
On l'a déploré.
On est dans l'incompréhension d'une réaction.
Mais Eto'o, il s'est excusé. Donc on peut très bien. On peut
quand même dire que c'est pas la.
Mais on dit que c'est pas bien. Non, bien sûr que c'est pas bien.
Kevin, tu conclus.
Même en tant que. Bien sûr que les provocations, c'est déplorable aussi. Mais le geste de Samuel Eto'o, qui est quand même quelqu'un qui est représentatif pour la jeunesse, etc., bien sûr que c'est inacceptable. Et je pense qu'il est le premier à le savoir et qu'il doit le regretter. Mais voilà, quand tu vois quand même ce geste d'une violence quand même rare, en plus pour un président de fédération qui représente son football, non, c'était pas à faire.
Non, mais il faut vraiment parler de tout le monde. Il faut que tout le monde se calme sur cette histoire. Dans cette histoire,
oui, ça on est tous d'accord. Dans un instant, l'Olympique Lyonnais avec Edouard G. Est-ce que le club sera enfin vendu à John Textor auprès de Jean-Michel Aulas? On en parle. Edouard G est avec nous dans quelques secondes dans l'After Intégral Coupe du Monde sur RMC. À tout de suite.
RMC After Foot Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo, nous parlons désormais de l'Olympique Lyonnais dans l'After intégral Coupe du Monde sur RMC, 23h40 à Paris, 1h40 du matin à Doha, Lyon. Donc j'accueille bien sûr Edouard G. Salut Edouard.
Salut Nicolas, salut Kevin, salut Daniel et bonjour à tous.
Bonsoir à tous.
Et Daniel, à tes côtés, en studio, François Bessène, notamment contributeur de la revue de l'After. Présente-nous ton invité ce soir.
Ah bah c'est pas que mon invité à moi.
C'est à nous tous bien sûr.
François, présente-toi.
Alors déjà auditeur de l'After, contributeur parfois pour la revue. Moi, je suis consultant en stratégie et assez souvent sur des sujets de vente et de rachat d'entreprises. Ce qui m'a amené à regarder de plus près le sujet de l'Olympique Lyonnais parce que c'est une boîte cotée, donc avec beaucoup d'informations publiques qui d'ailleurs sont accessibles à tous les auditeurs s'ils veulent vérifier ce qu'on va pouvoir raconter.
Et dans les premiers contacts qu'on a eu ensemble, ce que tu tenais à me préciser, c'est que l'idée globale qui était énoncée partout dans tous les médias, c'était que John Textor rachetait l'OL. Or, c'est complètement faux.
Alors d'abord, François, je te donne la parole dans un instant. Les informations d'Edouard G qui travaille sur le dossier heure après heure depuis de nombreux mois. La situation est toujours aussi confuse. Edouard, je rappelle, énième ultimatum fixé par Jean-Michel Aulas à demain. Où en est-on aujourd'hui concrètement, Edouard?
Eh bien, on en est au, ce que j'ai compté, le 22e épisode, hein, la 22e étape dans ce rachat, donc lancé au mois de mars. On rappelle, parce que c'est important d'avoir ça en tête, il y a au final que 40% de l'OL en vente, hein. Les deux fois 20% d'un côté de Pathé, du groupe Pathé qui est à l'OL depuis 1999, et le groupe IDG, c'est un groupe chinois qui est à l'OL depuis août 2016. Donc ce sont ces deux acteurs de l'OL, du capital de l'OL, qui ont décidé en mars dernier de vendre. Ils ont mandaté une banque américaine, la banque Rhein, qui donc a choisi au final de présenter John Textor à Jean-Michel Aulas, qui a donc lui préféré plutôt Foster Gillette. En dehors du choix de la banque Rhein, finalement, c'est donc John Textor. Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête pour avoir les prochains épisodes. Alors, à l'instant T, ce que l'on me dit, moi, encore hier soir, tout peut changer encore, bien évidemment, dans les heures à venir. Mais la fumée devrait plutôt être blanche que noire. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait plutôt un achat de John Textor, donc de l'OL. Le communiqué de presse devrait arriver demain soir, avec le décalage horaire avec les États-Unis, peut-être dans la nuit de mercredi à jeudi. En tout cas, si la fumée est noire, donc si la vente ne se fait pas, il va y avoir des actions en justice des vendeurs envers notamment la banque Rhein, qui a choisi John Textor. Il y a donc cette position de la banque Rhein qui va être à regarder. Et donc, je le dis bien, il n'y a que 40% des parts en vente. Ça veut dire que potentiellement, derrière, il peut y avoir, pourquoi pas aussi, à la place, si ça ne se fait pas, quelqu'un qui apporte de l'argent pour une augmentation de capital pour compenser l'éventuel départ de ces 40%. Voilà où l'on en est ce soir. La fumée devrait plutôt être blanche que noire dans ce dossier qui est très très compliqué, notamment parce que le dernier détail, c'est cette fameuse lettre que doit envoyer la Première Ligue avec l'accord de Crystal Palace, parce que John Textor posséderait à la fois des parts dans le club de Crystal Palace et dans le club de l'OL, et pour au niveau de la Première Ligue, il faut un accord, et c'est là que le bas blesse. Pour le moment, il faut que...
Mais on en parle depuis longtemps, Edouard, de ça, de la fameuse autorisation de la Première Ligue pour le transfert.
Oui, alors qui au départ, au mois d'octobre, était simplement une lettre. Et là, maintenant, c'est une lettre avec des conditions avec beaucoup de millions, visiblement. Et c'est ça qui complique, on le dit, depuis le 17 novembre, depuis le 21 octobre, cette vente. C'est juste ce détail. Tout le reste est là. L'argent est bloqué sur un compte. Les accords sont faits entre les différents actionnaires.
Daniel.
Donc, je disais, oui, François. Pourquoi, selon toi, de dire que Textor rachète le club, c'est faux?
Alors déjà, si on lit les documents financiers du groupe L, il y a bien plus que 40% qui sont en vente, parce que Jean-Michel Aulas vend 50% de ses
offres. Oui, je disais 40%, c'est au départ. Hein.
D'accord.
Je replaçais dans le contexte. Derrière, bien évidemment, il faut être précis. Si voilà, c'est 40%, c'est ce qui est en vente au départ. Et derrière, la proposition de John Textor ou de Foster Gillette ou d'autres à l'époque, c'était de tout racheter. Du coup, aussi les parts de Jean-Michel Aulas et toutes les parts qui sont dans le public, hein, parce que derrière il y a une OPA qui serait lancée, parce qu'on rappelle que l'OL, et tu l'as dit, est en bourse.
Ok, avançons. Allez.
Donc, pour regarder, pourquoi est-ce que dire que c'est John Textor qui achète, il faut faire très attention. Déjà, John Textor n'achète pas avec son argent. C'est classique dans le cas de ce qu'on appelle une LBO. C'est un rachat avec effet de levier. En fait, il va chercher de la dette. Donc, en fait, lui, il va juste mettre de sa poche 5 millions d'euros. Sachant que le capital estimé est à peu près à 500 millions, on se rend compte qu'il va emprunter la quasi-totalité sur les marchés. Aujourd'hui, l'investisseur majoritaire...
Même le mec à Bordeaux aurait détenu plus finalement. Et même Dagrossa.
Joe Dagrossa. Plus, tout à fait. Avait mis plus, il avait mis 2,5 millions sur un rachat à 100 millions. Donc on voit que le rapport d'equity par rapport à la dette est encore plus faible dans le cas de ce rachat. Qui est l'investisseur qui met le plus d'argent dans le financement? C'est un fonds d'investissement qui s'appelle Ares Management, un des plus gros fonds au monde, hein, extrêmement connu, qui apporte le financement. Il n'est pas clair encore aujourd'hui, est-ce qu'ils vont prendre une part de ce qu'on appelle l'equity, donc le capital social de l'entreprise. Normalement, ils n'en prennent pas de l'Olympique Lyonnais. Peut-être en prennent-ils de Eagle. Eagle, en fait, c'est la holding qui a été créée en 2022. C'est très important de dire 2022 par rapport à Crystal Palace, parce que Crystal Palace ne fait pas partie de ce véhicule financier, uniquement pour se financer sur les marchés. Donc, John Textor, il rachète en effet, mais c'est pas son argent. Et ça va amener beaucoup de choses, parce qu'il va falloir le rembourser.
C'est toujours un objet d'inquiétude. Ça se fait, je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour l'OL. Est-ce que c'est ton avis également?
Il y a un enjeu de remboursement de la dette. Quand vous allez acheter votre appartement, vous achetez auprès d'une banque, entre guillemets, conventionnelle. Vous pouvez acheter sur 20 ans, 25 ans, même 30 ans. Là, John Textor, avec sa structure Eagle, va se financer auprès d'Ares. Ares étant un fonds d'investissement, faut comprendre ce qu'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, ça peut être vous et moi qui donnons notre argent. Ça peut être, par exemple, les retraites, les caisses de retraite au Canada, aux États-Unis, qui prêtent de l'argent pour obtenir un rendement. C'est-à-dire que Ares, en donnant le financement, va attendre un taux d'intérêt élevé, parce que sinon ils peuvent aller se financer auprès de banques conventionnelles, et dans un délai assez court. C'est risqué, au sens où il va falloir rembourser sans doute rapidement des sommes importantes dans un milieu au contexte compliqué, et d'ailleurs le foot, qui par nature ne dégage rarement des bénéfices. L'Olympique Lyonnais...
C'est la merde dans laquelle s'était retrouvé Bordeaux, ça.
Bien entendu. Alors l'Olympique Lyonnais a un avantage, il faut féliciter Jean-Michel Aulas pour tout ce travail, ce sont tous les actifs immobiliers.
Ça, c'est vrai.
Qui sont valorisés, bien entendu, dans la vente et qui, entre guillemets, rassurent les prêteurs. Maintenant, il y a un double enjeu. John Textor, il a peut-être vu grand. En rachetant au mois de mars, faut pas oublier qu'on a eu l'invasion de l'Ukraine, donc là également la remontée des taux d'intérêt, ce qui fait que quand on achète une entreprise, et tous les auditeurs s'en rendent bien compte, quand au quotidien ils essayent d'avoir un crédit immobilier, les taux d'intérêt n'ont rien à voir. Ils sont bien plus importants. Récemment, et on voit que c'est un problème parce que le closing n'est toujours pas fait, l'euro est en train de remonter par rapport au dollar. La transaction, elle se fait en euros. Le portefeuille de dette, enfin les financeurs le financent en dollars. Donc le coût de la transaction est plus élevé actuellement pour John Textor. Donc c'est un...
D'où les coûts de frein multiples.
Exactement. Et en fait, les prêteurs veulent des garanties. La garantie qui est attendue... Alors, il y a évidemment le stade, il y a tous les actifs immobiliers, et qui est un travail remarquable. D'ailleurs, il faut encore une fois insister dessus.
Moi, je m'inquiète, je me demande même, Lyon peut prendre un virage dangereux dans cette histoire-là, mais bon.
Mais ce qui est dingue, Daniel, excuse-moi François, c'est que ça veut dire que Jean-Michel Aulas est prêt à coûte que coûte à lâcher son club.
Mais tu sais quelle opération financière il y a derrière,
qui n'est pas forcément viable ou fiable. Mais c'est justement ça qui nous intéresse. Pourquoi Jean-Michel Aulas veut absolument vendre Lyon sans assurance très claire, très fiable, très viable pour l'avenir de son club de cœur, hein, celui qu'il a construit, qu'il a fait grandir?
Je vais donner juste les montants de la transaction. Les raisons qui sont derrière, évidemment, moi je ne les connais pas, mais je vais juste donner des chiffres qui sont publics, qui sont dans les rapports de OL Group. La vente des parts de Pathé va rapporter donc au groupe Pathé à peu près 150 millions d'euros. IDG, l'investisseur chinois, on est plus proche de 90 millions. Si on parle de Allnest, qui en fait est la holding financière de Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas va toucher environ 92 millions d'euros sur la vente telle qu'elle est définie aujourd'hui, et va garder à terme 8,5% du capital. Il y a des gens
là,
dont
tu parles de sa holding, hein, François.
Exactement, la holding, Allnest, qui est une holding familiale. Il y a des gens dont on parle très peu ces derniers temps dans le rachat de l'OL, ce sont les petits porteurs.
Ah, bah oui, ils sont enflés de A à Z.
Aujourd'hui, ce qu'on appelle le flottant d'une entreprise qui donc est en bourse représente 30% du capital social de l'Olympique Lyonnais. Les actions, lorsqu'elles ont été émises en 2007, si je dis pas de bêtises, l'introduction a été faite à 24 euros. Alors, ça a baissé, en fait, assez rapidement. Aujourd'hui, le cours de l'action, qui d'ailleurs a été réouvert aujourd'hui, alors qu'il avait été bloqué dans le cadre du closing, ce qui, moi, m'amène à penser que potentiellement, ça se fera pas demain. Je dis pas que ça ne se fera pas. Mais le cours ayant été réouvert aujourd'hui, et d'ailleurs, il a perdu 14%, on peut se dire que le closing ne se fera peut-être pas demain. Mais les petits porteurs, on est à moins de...
Combien elle vaut son action, petit porteur ?
On est à 2,40 €.
Waouh !
Ouais. Donc, c'est-à-dire
mais
que
c'est engagé à les reprendre à 3 euros.
Et alors, tout à fait, John Textor s'est engagé à les reprendre à 3
Quand
euros.
Quand certains en ont acheté pour 20 euros, hein, mon cher François.
Voilà, exactement.
En 2007.
En 2007, et ensuite un peu en dessous ou autre. Il n'y a pas si longtemps.
Des salariés du club, hein, en plus, hein, des salariés du club.
Il y a des salariés, il y a des petits porteurs comme tout le monde. L'action était disponible sur les marchés et tout le monde pouvait, même des supporters, pouvait acquérir une action OL Group.
Donc, et même les salariés du club qui regrettent d'avoir été poussés à acheter ce genre d'action, François.
Ah bah potentiellement. Mais après, ce sont également les risques lorsqu'il y a ce qu'on appelle une IPO et que les salariés prennent des actions. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entreprises aussi.
Qu'est-ce qu'on peut envisager si ça ne se fait pas? Si finalement ces gens-là disent on ne prend pas. Comment on continue? On continue comme on est là?
Alors si ça ne se fait pas, l'Olympique Lyonnais a... Évidemment, de par ses actifs immobiliers, c'est quand même une boîte très particulière dans le monde du football, peut attirer d'autres investisseurs.
Pour 40% du capital, on rappelle.
Exactement. 40 ou plus, selon ensuite les négociations qui auront lieu. Il peut y avoir d'autres investisseurs. On peut rester tel qu'on est.
Avec une augmentation de capital.
Voilà, il y a l'augmentation de capital qui était annoncée à peu près de 80 millions. Ça peut être sans vendre. On fait une augmentation de capital avec de l'argent frais d'autres investisseurs. Ce qui fait qu'en fait, on dilue le pourcentage de l'entreprise OL Group qui est détenue par les différents investisseurs, quitte à refaire un autre process de vente plus tard.
Est-ce que c'est faux de dire qu'au final, à ce moment-là de sa vie, il n'est plus en très grande forme, Jean-Michel Aulas. C'est une opération financière incroyable. C'est le moment de se retirer pour lui. Et que finalement, lui, à la maison ce soir, il a envie que ça se fasse quand même. Il a envie de partir, de réaliser cette opération financière et de passer à autre chose. Et en gros, advienne que pourra derrière.
Je pense qu'on ne peut pas oublier 30 ans d'histoire entrepreneuriale. C'est d'abord un chef d'entreprise qui a eu des très grands succès. Pas que à l'Olympique Lyonnais, qui a construit une entité, une marque. Enfin, il y a quand même un stade qui est propriété du club. Maintenant, à un moment, c'est normal pour tout chef d'entreprise de réfléchir à la sortie. Et les fonds d'investissement sont très souvent là pour faire vivre ces entreprises lorsque les gérants et créateurs se retirent et, entre guillemets, ne laissent pas le bien, par exemple, aux enfants. Et ça arrive pour énormément de chefs d'entreprise. C'est la réalité de l'économie au quotidien. C'est financièrement une très belle sortie. Je pense que Jean-Michel Aulas est persuadé que pour son club c'est sans doute la meilleure chose à faire parce que c'est
lui,
un projet
qui par la base
est ambitieux.
Une bonne nouvelle de vendre à ces gens-là. Moi j'ai un doute là-dessus.
Moi je ne connais pas.
On peut demander à Edouard notamment ça.
Edouard, ton avis là-dessus. Moi je me demande vraiment, il veut vendre, mais est-ce qu'il s'est soucié de savoir ce que les gens allaient faire du club?
Bah, je pense que si si ça prend du temps, s'il demande des garanties, il y a eu tous ces ultimatums de demi, notamment le 24 octobre, quand il met John Textor au pied du mur en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que à l'instant T, c'était juste des accords oraux, hein. Et donc, il l'a mis au pied du mur. Et le 25 octobre, comme par hasard, parce que John Textor, c'est quelqu'un qui est fils de un héritier, qui découvre un petit peu ce que c'est que l'administration française, les transactions internationales. Donc,
Les gars, ils ont fait une conférence de presse. Ils ont convoqué tout le monde. Ils ont fait ses vendus. Textor a parlé, a fait ses petites vannes classiques. Honnêtement.
Oui, mais parce qu'à ce moment-là, Daniel,
il y a un côté ridicule dans l'histoire qui est.
Non, bon. Oui, mais qui est ridicule là-dedans? C'est peut-être. Est-ce que c'est pas la banque Rain qui a présenté ce profil-là?
L'OL aussi, Olas aussi, il est ridicule.
Mais non, mais il faut replacer.
Il faut qui il traite.
Il faut se replacer au 20 juin, au mois de juin, quand tout se fait. Et quand vous avez la banque Rain qui vient de faire le deal de Chelsea, qui est en portefeuille là, la vente de Manchester United, qui vous dit voilà, l'homme idéal c'est X, eh ben il a totalement confiance.
Ouais.
Là, il y a un problème aussi de la banque qui fait l'intermédiaire.
C'est le monde d'un club où les banques sont arrivées, on dit ça, et puis derrière, c'était flippant. À Bordeaux aussi, il y a certainement quelqu'un à un moment qui a dit.
Et derrière, il y a eu ces différents ultimatums, et derrière, eh bien, les accords sont passés de l'oral à l'écrit au mois d'octobre, et les fonds sont arrivés tout début novembre. Donc, il a fallu forcer. Et si Jean-Michel Aulas ne se souciait pas de tout ça, je pense qu'il l'aurait vendu à un moment donné avec uniquement des accords oraux, et puis laisser le bateau vogué. Là, il attend quand même un certain nombre de certitudes, en sachant que c'est vraiment le dernier ultimatum.
Que ça ne se fasse pas.
Ils sont globalement très inquiets, en tout cas. On attend la fumée blanche ou la fumée noire dans les prochaines heures. Merci, Edouard.
Allez, à la prochaine.
Excellente soirée à toi. Merci à François Bessène également. Merci à Kevin. Merci à Daniel. Fin de l'after intégral Coupe du Monde sur RMC dans un instant.
C'est votre habitude
désormais. Absolument pas. C'est parti pour la libre antenne sur RMC avec le duo de vos nuits, du début de vos nuits. Thibaut Jean-Grande et Nicolas Villas. Dans quelques secondes sur RMC, merci également à Antoine Vernier et Philippe Michon. Bye bye.